micro Méga,
Patrick Chompré,
Christian Souti.
Bonjour et bienvenue. L'actualité scientifique de la semaine, c'est tout de suite sur l'antenne de RFI. Avec vous, Christian Sauty, bonjour.
Bonjour Patrick.
Et puis nous sommes avec Caroline Lachowski. Bonjour Caroline.
Bonjour à tous les deux.
Pour ce premier numéro, nouvelle formule des sujets actus, Christian.
Oui, au programme de ce dernier micro-méga de janvier, je vous propose de faire le point sur le péril aviaire sur les aéroports en compagnie d'un expert, un ornithologue qui travaille depuis une trentaine d'années pour la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. Et pour lui, il y a de fortes chances que des oies Bernache du Canada soit à l'origine du récent accident d'Airbus A320, ce fameux Airbus qui a amerri sur le fleuve Hudson à New York. Et puis le second dossier d'actualité concernera le projet européen de drones de combat, neurones de Dassault, car le concept avance à grands pas et on teste ces jours-ci les moteurs et les tuyères de cet avion noir, bizarrement anguleux et aplati pour cause de furtivité extrême.
On va voir ça. Reportage aussi, on a retrouvé la trace des premiers Européens dans la région de Burgos en Espagne où ils vivaient il y a plus d'un million d'années. Reportage de Caroline Lachowski. Et puis notre invité multifacette avec Jean-Yves Casga sera Pascal Pic, paléontologue mais aussi chorégraphe. Enfin, on reviendra en arrière. Et oui, il y a plus de 100 ans, le premier salon aéronautique au Palais de la Découverte à Paris.
Micro-méga.
Mais tout de suite, quelques infos que nous avons triées pour vous dans l'infosphère.
Mettez de la graisse dans votre moteur, mais attention, pas n'importe laquelle. Un chirurgien plasticien de Los Angeles s'est vanté de faire marcher son 4x4 au lipodiesel, un biocarburant qu'il a lui-même fabriqué à partir de la graisse liposucée à ses patients. Techniquement, en effet, la graisse humaine contient, comme les graisses animales, les triglycérides nécessaires à la fabrication des biocarburants. Sauf que l'usage des déchets médicaux humains à des fins commerciales ou encore pour alimenter un véhicule est heureusement illégal. De nombreux clients du docteur Bittner, c'est son nom, ont donc porté plainte quand ils ont réalisé à quoi servaient les restes de leur culotte de cheval. Et ce d'autant plus que notre chirurgien, sur son site lipodiesel.com, a mis en avant les avantages très écologiques de cette récupération. Imaginez, on vous enlève un peu de graisse et puis hop, on la met dans votre voiture. Un nouveau rêve américain à la fois écolo et lucratif qui s'est pourtant effondré, poursuivi par les services sanitaires de Californie. Le docteur Bittner se serait réfugié, lui, ses résidus graisseux et ses 4x4 en Colombie, selon nos sources The Independent et Courrier International.
Après cette histoire qui va peut-être solutionner le problème de l'énergie, j'essaie de vous faire rêver avec des chercheurs japonais qui ont conçu, eux, une technique d'analyse cérébrale qui permet de reproduire sur un écran ses propres pensées. Alors voilà qui ouvre tout un champ de perspectives. Pour l'instant, c'est quand même rudimentaire. Vous pensez par exemple à la lettre A et puis un A va s'afficher sur l'écran. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà extrêmement complexe à réaliser. Le système, eh bien, c'est une sorte de décodeur des variations électriques cérébrales. C'est encore tout jeune, mais ça fait rêver. Ces chercheurs du laboratoire de neurologie japonais imaginent par exemple que l'on pourra regarder un jour ses propres rêves reconstitués ou bien exprimer par l'image une pensée qui peut difficilement être mise en mots. Je vous laisse rêver.
On ne rêve pas, la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure, chez les chimpanzés en tout cas, où il suffit parfois d'être gentil pour arriver au sommet, comme l'ont constaté avec étonnement les primatologues de la réserve du parc national de Gombe en Tanzanie. En observant sur 20 ans les différentes stratégies des mâles dominants pour accéder au pouvoir suprême, ils sont tombés sur Wilkie, un gringalet d'à peine 37 kilos, capable de damer le pion à des grosses brutes épaisses de plus de 50 kilos. Et comment il s'y est pris, Wilkie, pour devenir mâle dominant à la place du mâle dominant, à coups de papouilles, de l'échouille et de toilettage assidu de tous les membres de la colonie, mâles, femelles, petits et vieux compris. Tellement attentionné qu'il a réussi à rester pendant 3 ans, du haut de ses malheureux 37 kilos, le mâle dominant de la colonie. De quoi bouleverser toutes les idées reçues sur la domination du plus fort, chez les chimpanzés du moins, en ont conclu les auteurs de cette étude publiée sur le site de Nature.
Tout est possible. Oh, Dans l'actualité récente, l'accident d'un Airbus A320 à New York qui a contraint donc d'amerrir sur le fleuve Hudson au cœur de New York. Bel exploit hein, de la part du commandant de bord qui a pu sauver les 155 passagers du vol. Un accident qui a mis en relief le fameux péril aviaire dans l'environnement des aéroports. Et oui, un vol d'oiseaux happé par les réacteurs d'un aéronef peut provoquer l'extinction d'un ou de plusieurs réacteurs. Et pour l'Airbus de New York, c'est assez rare, mais l'extinction de deux moteurs simultanément a transformé l'appareil en un simple planeur sans aucune propulsion, avec donc la contrainte de se poser au petit bonheur la chance. Pour en savoir plus, Christian, vous avez déniché l'homme qui peut nous en apprendre long sur la question.
Jean-Luc Briot, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Briot, vous êtes ornithologue, donc spécialiste des oiseaux, et vous travaillez à la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. La DGAC est garante de la sécurité et de la sûreté du trafic aérien en France. Jean-Luc Briot, quel est votre rôle d'ornithologue au sein de la DGAC?
Mon rôle d'ornithologue, en fait, est d'essayer de trouver des solutions à ce problème des collisions entre les oiseaux et les avions. Et j'ai été embauché pour ça il y a 30 ans. Et mon rôle est donc d'essayer d'améliorer la sécurité aérienne, surtout sur les aéroports où l'on rencontre 95% des incidents.
Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, la législation concernant les aéroports est relative au péril aviaire. En quelque sorte, on vous la doit?
Oui, en partie, mais c'est vrai que j'y ai consacré pas mal de temps.
Alors sur les aéroports, comment se pose ce problème du péril aviaire? Quels sont les oiseaux concernés et jusqu'à quelle altitude?
La plupart des oiseaux rencontrés sur les aéroports français, il n'y a pas plus de 10 espèces relativement communes. C'est soit des rapaces qui représentent 50% des collisions, buse variable, milan noir, faucon cresserelle, etc. Soit des laridés, c'est-à-dire goélands, mouettes, et d'autres espèces un peu plus occasionnelles qui représentent en gros 10 à quelques pourcents de nos collisions. Donc c'est les vanneaux par exemple, les pigeons, les hirondelles et martinets, et puis des espèces plus anecdotiques, plus rares comme les outardes, les choses comme ça.
Alors finalement, le péril aviaire, d'une manière générale, il est mondial avec des spécificités selon les régions et même les continents. Je pense en France, le péril est différent de Brest à Paris ou en Alsace, et puis différent en Amérique ou en Afrique.
Bien sûr, chaque pays a son avifaune qui est tout à fait spécifique, mais on a quand même des grandes généralités puisque aujourd'hui, la plupart des pays du monde enregistrent des incidents avec en gros deux familles d'oiseaux. Les rapaces, qui représentent en gros la moitié des incidents, les goélands et les mouettes, qui sont inféodés au béton, qui aiment bien les surfaces dures comme les ports ou les pistes d'aérodrome, qui représentent en gros 30% des collisions. Le reste étant dû à des espèces un peu plus variées qui sont justement spécifiques à chaque aérodrome. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces collisions oiseaux effectivement sont enregistrées en dessous de 150 mètres sol. C'est là où on a 95% des incidents. Ce qui s'est produit à La Guardia à 900 mètres sol, ça peut arriver, mais ça représente moins de 5% des collisions. Et c'est d'autant plus rare que là, ça concerne des oiseaux en migration.
On dit des oiseaux en migration, donc ce sont des gros oiseaux. On a une idée approximativement, si le fait oiseau se confirme pour l'Airbus A320, du type d'oiseau que ça pouvait être pour voler à 900 mètres d'altitude?
L'idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, c'est la bernache du Canada. C'est une oie qui a été protégée aux États-Unis et au Canada depuis de nombreuses années, comme d'autres gros oiseaux gibiers, comme les cygnes ou d'autres espèces d'oies. Mais la bernache du Canada, elle est très fréquente dans les villes. Et elle peut effectivement voler. Là, c'est même pas des migrations, c'est des mouvements locaux. C'est-à-dire que l'oiseau fait des petits vols entre son dortoir et ses lieux de nourrissage qui peuvent atteindre 1000 mètres sol, en gros. C'est probablement ça qui l'a percuté. Mais ça peut être aussi lié aux vagues de froid qu'on a enregistrées ces derniers temps. Ça peut être des mouvements migratoires de grosses populations d'oiseaux. L'oie des neiges, par exemple, qui passe par New York. Là, c'est des centaines d'oiseaux qui peuvent transiter au-dessus de l'aéroport.
Jean-Luc Briot, quelles sont les solutions retenues contre ce péril?
En fait, les solutions pour l'instant dans l'aviation civile, au niveau mondial, ce sont des solutions réalisées au niveau des aéroports, c'est-à-dire qui sont efficaces jusqu'à 300 mètres sol à peu près. Donc deux types de solutions écologiques, rendre les aéroports inattractifs aux oiseaux, suppression des sources de nourriture, hauteur de l'herbe adaptée, pas de décharge publique, suppression des points d'eau sur les aérodromes. Parallèlement à ça, utilisation de moyens d'effarouchement simples, efficaces jusqu'à 300 mètres, donc pyrotechnie, tir de fusée détonante crépitante, tir de chasse aussi avec cartouche à plomb réel, utilisation de cris de détresse spécifiques, acoustiques, qui font fuir les oiseaux, utilisation de lasers portables ou fixes, qui sont efficaces sur les pistes, etc. Et occasionnellement, on fait appel à des fauconniers.
Et il y a des fauconniers à Villacoublay et sur la base aérienne d'Istres, je crois.
Voilà, puis Saint-Dizier qui accueille le Rafale, notre chasseur de combat le plus moderne, est protégé également aussi à Saint-Dizier par des fauconniers.
Alors pour éloigner les oiseaux, on a des effaroucheurs. Il y a des voitures qui, avec des haut-parleurs, émettent des cris d'oiseaux. Alors vous avez parlé tout à l'heure de cris de détresse. Est-ce que ce peut être aussi des cris d'oiseaux, de proie en quelque sorte, et qui pourraient effrayer les autres oiseaux ?
Non, pas du tout, puisque les oiseaux de proie, en aucun cas, n'émettent un cri quand ils chassent. Un oiseau de proie, s'il les fait fuir sa proie, ça ne marchera pas. Donc, ça n'existe pas. On utilise en fait des oiseaux comme les mouettes ou les corneilles ou les vanneaux, qui sont des proies, et qui, elles, quand elles sont attrapées, ces proies poussent un cri pour faire fuir leurs congénères. C'est pas le rapace qui crie, c'est la proie. Donc c'est ces cris d'oiseaux qui sont chassés par les faucons, c'est ces cris de mouettes ou de vanneaux que l'on reproduit.
Jean-Luc Briot, bon, techniquement, des oiseaux happés par des réacteurs, ça se produit quand même relativement régulièrement, sans trop de problèmes habituellement.
Voilà, la plupart du temps, c'est sans trop de problèmes. On a quand même 2 collisions oiseaux-avions en France par jour. On a 900 collisions par an, à peu près en France, donc 2 par jour. 15% sont significatives, c'est-à-dire qu'elles contraignent l'avion à un retard, et à peu près 5% occasionnent des ingestions moteurs. Et dans ces ingestions moteurs, la plupart du temps, il n'y a rien, c'est-à-dire que l'oiseau ressort sans dommage. Dans quelques cas, mettons 2-3 fois par an, on a quelques ailettes endommagées. Et une fois tous les 4-5 ans, on a un moteur gravement endommagé en France. C'est de l'ordre d'une fois tous les 3-4-5 ans, c'est rare.
Mais de toute façon, les avions sont conçus pour fonctionner. Bon, s'il y a un bimoteur et qu'il y a un moteur en rade, ils sont conçus pour fonctionner avec un seul moteur.
Absolument.
Quand
absolument,
ils ont 4 moteurs, c'est encore beaucoup plus facile. Mais c'est quelque chose de rarissime qui s'est produit pour l'Airbus A320 à New York.
C'est rarissime. C'est l'événement de qualifier hautement improbable. Normalement, ça ne doit pas se produire en dessous de une fois tous les 10 puissance 9 vols. Tous les milliards de vols, on ne doit pas avoir un événement comme ça. Mais les statistiques, vous voyez, ça a des limites. C'est comme au loto, hein, parfois on gagne.
Jean-Luc Briot, dernière question. Des gens comme vous qui travaillez à la DGAC en France, sur les aéroports, sur les aérodromes français, il y en a d'autres à l'étranger certainement. Il y a d'autres écoles, il y a d'autres
bien
façons
sûr
de s'occuper du péril aviaire sur les aéroports?
En fait, la plupart du temps, ce sont des universitaires qui sont embauchés sur contrat pour travailler sur des problèmes spécifiques et pour une période déterminée. C'est rare que des fonctionnaires d'aviation civile étrangère embauchent des spécialistes comme moi pendant longtemps. Mais enfin, j'ai quand même quelques collègues dans la plupart des pays développés qui ont une industrie aéronautique ou qui font voler beaucoup d'avions, qui font la même chose que moi en fait.
Jean-Luc Briot, 30 années d'ornithologie au service de l'aviation civile, si c'était à refaire, vous recommencez?
Ah oui, absolument, tout de suite.
On a appris plein de choses avec vous, Jean-Luc Briot, et donc il fallait revenir sur cette histoire d'accident d'Airbus A320. On voit que c'est toute une gestion des oiseaux et des avions, tout un travail et une vigilance. Micro-méga sur RFI, on reste dans l'air avec vous, Caroline. Qu'avez-vous trouvé sur la vie scientifique sur Internet?
Des moustiques amoureux. Et le plus fort, c'est qu'on peut même les écouter chanter, enfin j'exagère un peu, sur le blog de Nature. Quand ils sont amoureux, les moustiques, et ben en gros, ça donne ça. Bon d'accord, je vous l'accorde, hein, c'est pas terrible.
C'est pas très agréable,
bah non,
et pourtant c'est romantique en fait. Hein.
Bah oui, en fait c'est romantique. Bah, disons que d'abord, pour nous les humains, ça présage pas grand chose de bon. Surtout quand on sait que c'est le résultat de la rencontre entre deux moustiques Aedes aegypti. Ceux-là même qui transmettent la dengue, une très virulente maladie tropicale. Mais, et là c'est une très sérieuse étude publiée sur le site de Science, qui nous l'apprend, la découverte de cette sorte de champ d'amour des moustiques pourrait permettre de lutter effectivement plus efficacement contre la propagation de cette maladie.
Alors comment? Par quels moyens?
Alors pour comprendre, il faut d'abord savoir que d'habitude, les moustiques, quand ils ne sont pas dans une phase de rencontre amoureuse, les mâles et les femelles ne battent pas des ailes à la même fréquence et ne produisent donc pas le même son. D'ordinaire, c'est environ 600 Hz pour le mâle et 400 Hz pour la femelle. Mais ce qu'ont découvert les chercheurs, c'est que quand deux moustiques, mâles et femelles, se rencontrent, leur battement d'ailes s'intensifie à l'unisson jusqu'à s'harmoniser sur la même fréquence de 2100 Hz, d'où le bruit de sirène qu'on a entendu, un véritable coup de foudre sonore que je vous propose de réentendre
tout de suite.
2100 Hz. Hein.
Donc là, ils sont harmonisés, là.
Ils sont harmonisés, ils sont amoureux, ils battent des ailes à la même fréquence.
Alors, c'est beau.
Oui, enfin, avant que vous ne sortiez votre moustiquaire pour me clouer le bec, je vous précise tout de même que grâce à cette connaissance des comportements amoureux des moustiques, il sera plus facile aux chercheurs qui tentent de limiter la propagation de la dengue en stérilisant des populations entières de moustiques, il leur sera plus facile de leurrer les femelles pour les envoyer vers des mâles stérilisés, mais qui pousseront quand même leur ode amoureuse jusqu'à 1200 Hz. Vous me suivez? Sinon, rendez-vous sur le net, sur le blog de Nature, The Great Beyond, pour en savoir plus en version originale. Originale anglaise tout de même, sur le tempo amoureux des moustiques.
Il y a 100 ans.
Dans Micro-Méga, la trame du temps est fluide et nous passons du futur au passé et vice-versa très facilement. Ça s'est passé il y a un siècle et Christian Sauty, non, vous n'y étiez pas, mais vous avez trouvé la revue des sciences La Nature de l'époque, ça s'appelait comme ça, La Nature, et vous êtes tombé sur les pages du premier salon parisien consacré à l'aviation, un salon qui s'est tenu au Palais de la Découverte à Paris. L'événement a donc été rapporté en janvier 1909 dans cette publication scientifique et vous avez retrouvé la voix de l'époque pour nous le narrer.
Il est difficile d'imaginer un spectacle plus extraordinaire que celui du dernier salon au Grand Palais des Champs-Élysées. Quel que soit en effet l'avenir de la locomotion aérienne, l'année 1908 n'en restera pas moins une date mémorable. Dès leur premier pas sous le dôme central, les visiteurs apercevaient au-dessus d'eux le ventre majestueux de ce gros poisson jaune qu'est le dirigeable la ville de Bordeaux, frère cadet du Bayard Clémenceau. Les plus légers que l'air se trouvaient ainsi représentés par l'un des chefs-d'œuvre du genre, en tout cas par le plus récent des ballons automobiles. Du côté des tissus, pour enveloppe, les recherches très actives ont été entreprises un peu partout. Jusqu'à ces derniers temps, les étoffes à ballons venaient à peu près exclusivement d'Autriche. La société Continental exposait cette année des échantillons étudiés par elle pour le ballon sphérique, le dirigeable et l'aéroplane. Ces divers modules, constitués par du tissu de coton caoutchouté, ont une résistance qui est voisine de 1000 kg par mètre courant. Quant au poids par mètre carré, il n'atteint pas 100 grammes. Sous l'hémicycle du Grand Palais se trouvaient rassemblés la plupart des modèles actuellement connus d'aéroplanes. Au centre, sur un piédestal, s'érigeait l'avion d'Adair, copié avec une patience industrieuse sur la chauve-souris des Indes. Cet appareil, qui figure normalement parmi les collections du Conservatoire des Arts et Métiers, date de la période de 1895-1897, et il aurait, suivant quelques témoins, parcouru dès cette époque 500 mètres sans toucher le sol, mû par deux hélices antérieures à quatre branches, actionnées elles-mêmes par un moteur à vapeur. Après avoir parcouru les divers stands du salon, il est permis de dire, au moins approximativement, que l'aviation est la revanche du bois sur le métal. À poids égal, en effet, l'avantage est souvent au premier de ces deux matériaux. Il en est ainsi, du moins pour la conception des corps et des carcasses d'aéroplanes. L'icorie, le frêne, le pichepin sont des essences les plus employées. Quant au procédé d'assemblage et à la constitution même des éléments, ils sont absolument nouveaux. Qu'adviendra-t-il de toutes ces idées germées dans tant de cerveaux et que matérialisait cette exposition de modèles? Nul ne peut le dire aujourd'hui, mais il est bien probable que parmi elles, il s'en trouve beaucoup qu'il serait utile d'approfondir dans l'intérêt du progrès de la locomotion aérienne.
Micro-méga, l'actualité scientifique, un espace-temps différent. Restez sur RFI, on se retrouve juste après la synthèse de l'actualité.